Bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la vulgarisation scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Et cette semaine, nous allons parler football, puisque nous avons rencontré Vincent Gesbert, étudiant en thèse au sein du laboratoire Mouvement Sport et Santé, également appelé M2S. Ce doctorant s'intéresse à l'activité collective en football et plus particulièrement à des situations de match où les joueurs doivent communiquer implicitement. Pour cela, il suit une équipe de jeunes espoirs qu'il observe et qu'il questionne lors d'entretiens pour tenter de comprendre comment certaines décisions ont été prises du point de vue du joueur. Les objectifs de ses recherches sont notamment de proposer des pistes d'amélioration lors des entraînements. Vincent Gesbert, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes étudiant au sein du laboratoire de mouvement, sport et santé à l'Université Rennes 2.
Oui, c'est ça.
Est-ce que déjà vous pouvez rapidement nous présenter votre parcours ? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce laboratoire ?
Donc inscrit à l'Université Rennes 2, sitôt mon bac scientifique réussi, je me suis dirigé vers le parcours entraînement sportif. Et au sein de cette année, alors je me prédisposais plutôt à devenir entraîneur ou à la limite préparateur physique, j'ai eu de nouvelles préoccupations qui ont émergé au cours de l'année. En particulier au niveau de l'activité individuelle et de l'activité collective, via ma future directrice de thèse, donc au cours de psychologie. Et donc à l'issue de cette année-là, je suis allé la voir pour lui parler de mes problématiques, qui sont mes problématiques actuelles. Et elle m'a dirigé alors vers un master qui était en train de se monter à Nantes, le master expertise performance intervention. Donc j'y suis resté 2 ans. J'ai fait différents mémoires de recherche, dont mon master 2 qui a abouti à ce que je fais maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire mon travail de thèse au sein de l'Université de Rennes 2. Donc j'y suis revenu l'année dernière. Donc là, je suis en fin de première année.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une thèse ? Vous nous avez parlé de la rencontre avec votre directrice de mémoire de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont donné envie d'aller plus loin et de faire de la recherche dans le domaine du football ?
En allant à l'Université de Nantes, j'ai rencontré de très bons professeurs, mais également un thésard qui a fait sa thèse sur l'activité collective en basket. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un qui avait des préoccupations assez similaires à moi, même si ce n'était pas dans la même activité sportive. Donc déjà, ça rassure et forcément, ça motive également à poursuivre ses activités de recherche. Donc mon master 2 était plutôt orienté sur l'activité collective et donc il m'a semblé logique aux yeux de ce que présentait ce jeune thésard et de ce que me disait ma directrice de thèse, qui était à l'époque ma directrice de mémoire de recherche, que je pouvais continuer sur un travail de thèse qui allait être assez innovant dans l'activité du football.
Est-ce qu'il y avait déjà des recherches qui avaient été faites sur ce sujet ou pas ?
Les rares travaux qui ont été faits en foot au niveau activité décisionnelle, c'est plutôt on va dire, orienté psycho-expérimental, malgré qu'il y ait eu un travail de thèse dans les années 90 par Garbarino, mais qui était à l'interface entre psychologie, entre guillemets, écologique et expérimentale. Sinon, en 2008, oui, il y a une thèse d'un étudiant brestois qui s'est intéressé à l'activité collective sur des phases de contre-attaque, mais sauf qu'il a utilisé des situations d'entraînement. Donc moi, je poursuis sa logique, sauf que je m'intéresse à des situations de compétition. Voilà la grande différence. Après, il y a un cas théorique qui diffère, mais dans la logique, on est sur une même question pratique. Voilà, comprendre comment des joueurs sur des situations de contre-attaque arrivent à se coordonner ou non.
Alors, on va s'intéresser un peu plus à votre sujet de thèse maintenant. Quel est l'intitulé exact ?
L'intitulé exact, de façon très générale, ça sera l'étude de l'activité collective en football, ergonomie cognitive des situations sportives. Donc, en fait, je m'intéresse à la manière dont un ensemble de joueurs arrive à se coordonner ou non sur des situations spécifiques. Je ne vais pas faire la description footballistique ici, mais en gros, c'est des situations de contre-attaque. C'est-à-dire des situations où l'équipe n'a pas le ballon et il le récupère et doit attaquer le but adverse très rapidement. Donc ça implique de communiquer de façon implicite avec ses partenaires. C'est-à-dire on utilise rarement la voix et on est contre des adversaires. Donc l'idée, c'est comment on arrive à communiquer, se faire comprendre, sans se faire comprendre par les adversaires. Voilà. Et l'idée générale derrière ça, c'est est-ce qu'on a forcément besoin de partager les mêmes préoccupations pour pouvoir fonctionner ensemble de façon efficace.
Donc c'est plus le côté offensif que défensif.
Voilà, c'est le côté offensif.
Vous vous étiez intéressé au côté défensif lors de votre projet de master, c'est ça ?
C'est ça, en master 2, je me suis intéressé à la façon dont deux défenseurs arrivaient à se coordonner sur des moments de transition défensive, donc l'inverse, on a le ballon et on le perd. c'est à peu près la même chose, sauf que dans un cas, on n'est pas en possession du ballon, alors que dans l'autre, on l'est. Ça change quand même les choses. Voilà. Et pourquoi plus les positions offensives ? Parce que souvent, c'est les situations où les joueurs ont plus de facilité pour s'exprimer, parce qu'ils sont initiateurs, ils ne sont pas dépendants. Donc forcément, quand on parle d'eux, c'est beaucoup plus facile à communiquer là-dessus.
Vous travaillez en collaboration avec un club de foot,
oui,
du coup, pour vos recherches. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce club ? Comment est-ce que vous l'avez choisi ?
Donc moi, l'idée, c'était de se dire que le programme de recherche allait être assez long, qui va nécessiter beaucoup de matchs, de rencontres, qui allait avoir une phase de familiarisation assez longue aussi avec les joueurs et l'entraîneur. Donc déjà, c'était de se dire, est-ce qu'il y a un entraîneur qui est intéressé par mes problématiques, qui est assez proche ? Donc grâce à mon petit réseau, j'ai réussi à rencontrer un entraîneur qui commençait à s'intéresser à ces problématiques-là. Donc quand je lui ai exposé mes problématiques de recherche de master et surtout mon projet de thèse, ça lui a parlé. Donc déjà, le contact s'est bien réalisé. Après, il a fallu du temps pour accepter le projet dans le club, ce qui est aussi forcément logique, parce qu'on arrive sur des actes quand même qui sont assez novateurs. Et donc, depuis fin août, j'ai commencé mon recueil de données, où il a fallu d'abord faire le contact avec les joueurs, présenter le programme, savoir ce qu'on attendait d'eux, ce qu'eux aussi allaient recevoir en retour. Et donc, voilà, j'ai commencé mon recueil depuis fin août, et qui va se terminer théoriquement mi-mai 2012. Donc un recueil sur à peu près 10 mois, qui est assez atypique en termes de recherche, parce que souvent, ce sont des recherches sur un match ou une compétition, mais rarement sur une saison entière. Donc c'est ce qui fait l'originalité de ce travail. Mais en même temps, c'est un programme qui est très, 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 très lourd.
Le club que vous suivez est un club assez jeune et de haut niveau. Est-ce que vos travaux de thèse s'appliqueront également à d'autres niveaux et à d'autres tranches d'âge ? Je pense notamment à des niveaux amateurs ou à des joueurs de type senior.
Donc sur cette question, en sachant que ma population, oui, quand même, on va dire, c'est le haut niveau à leur âge, voire même le très, très haut niveau, puisque la plupart d'entre eux ont déjà connu des sélections en équipe de France. Ils sont quasiment à la porte du professionnalisme pour certains. Donc, je pense et je considère que les données et les perspectives d'études de ce travail de thèse pourront être intéressantes à très haut niveau, même au niveau professionnel. Après, en ce qui concerne le niveau amateur et même le niveau débutant, ça sera plus compliqué. Parce que, par exemple, je n'ai pas les contraintes au niveau technique des joueurs. C'est-à-dire que si déjà on a du mal à faire des contrôles, des passes, forcément pour étudier l'activité cognitive, ça sera déjà beaucoup plus complexe. Donc je pense que ça sera plutôt intéressant à haut niveau. Mais même à haut niveau senior, voire du haut niveau senior régional, ça peut être intéressant. Après, quand on passe à d'autres catégories de jeunes, et voire même du niveau district, ça risque d'être problématique, il faudrait faire d'autres études, je pense.
Comment se déroule votre travail avec le club de football que vous suivez ?
Donc à l'heure actuelle, pour l'instant, j'ai eu deux recueils de données. Type match, donc typique, je vais expliquer rapidement ce que c'est. Le match se déroule généralement le samedi après-midi, donc le match, on le filme. À l'issue de ce match, donc, il y a un travail déjà de visionnage. On va dire généralement, il y a deux passages du match et on extrait les séquences intéressantes. On extrait les situations de contre-attaque qui nous intéressent à partir d'une liste de critères déjà préétablis. À partir de là, on choisit deux séquences qui nous apparaissent les plus intéressantes à étudier. Et donc, s'ensuit des entretiens avec les joueurs qui sont impliqués dans les actions. Donc, généralement, les entretiens se déroulent le lundi, mardi, mercredi. Bon, ça varie, hein, c'est suivant l'adaptation aussi au niveau du club. Et donc, c'est des entretiens individuels avec chaque joueur, avec un protocole méthodologique particulier que je vais décrire tout à l'heure. Bon, il faut savoir à peu près que l'entretien dure entre 30 et 45 minutes et qu'il y a à peu près 6 à 8 entretiens par semaine. Voilà comment se déroule, entre guillemets, la période de recueil de données.
Donc, vous parlez d'une méthode particulière pour faire vos entretiens. Alors, parlez-nous-en un peu plus.
Donc, en fait, il existe plusieurs techniques d'entretien pour s'intéresser à l'activité, entre guillemets, cognitive du sportif. À Nantes, par exemple, c'est l'entretien d'autoconfrontation. C'est-à-dire qu'on va confronter le joueur à la bande vidéo de sa performance. Moi, j'utilise un autre type d'entretien, qui est l'entretien d'explicitation, auquel je me suis fait former. Parce que c'est un entretien assez particulier. Donc, je me suis fait former à Paris sur... Donc la première fois en janvier, et là j'y suis retourné au mois d'octobre en tant qu'assistant, hein, c'est une formation interne. Et donc ce type d'entretien en fait est assez atypique, puisque normalement il se base sans la vidéo. Moi j'apporte une petite nouveauté, que j'ai extrait aussi d'une autre thèse, hein, qui a été réalisée au niveau du rugby, c'est que je passe la bande vidéo deux fois avant l'entretien d'explicitation, donc ça s'appelle le rappel stimulé. Donc on confronte le joueur à la séquence, et à partir de là on essaie d'identifier les moments importants, selon lui, de l'action. Et à partir de là, on ferme, on va dire, on rabaisse l'écran d'ordinateur, on se retourne et puis on commence l'entretien d'explicitation. Bon, il est atypique dans le sens où il n'y a pas de pourquoi, on ne cherche pas la justification, ni même l'explication, on cherche simplement la description de ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Donc ça nécessite un guide de questionnement particulier et auquel il faut se former parce que c'est contre-intuitif. Par exemple, simplement, voilà, c'est qu'est-ce que tu as regardé, et quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu vois, et quand tu sais ça, comment tu le sais, en faisant ça, qu'est-ce que tu cherches. Donc on n'induit jamais en fait. On se base sur ce que dit le joueur et on continue la description la plus fine possible. Donc pour ça, en gros, une action qui dure à peu près 20 secondes, on peut faire un entretien de 45 minutes. Alors que sur l'entretien d'autoconfrontation, c'est pas possible. Un ordre d'idée, un match de basket qui dure 40 minutes, un entretien d'autoconfrontation sur tout le match de basket dure 70 minutes. Alors que nous, on est sur des actions de 20 secondes et on peut faire des entretiens de 30 à 45 minutes. Preuve qu'on va vraiment beaucoup plus loin. Même si la longueur de l'entretien n'est pas un gage de sécurité, mais par rapport aux données qu'on recueille, on va vraiment très, 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 très loin.
Une fois les entretiens réalisés, j'imagine qu'il y a une retranscription de tout ça.
Oui, donc c'est la partie, on va dire, la moins marrante pour certains. Moi, elle ne me déplaît pas parce qu'elle permet tout de suite de juger l'efficacité de l'entretien ou pas. C'est-à-dire qu'on a des guides de questionnement et quand on retranscrit les entretiens, souvent on se dit, bah tiens, c'est peut-être sur telle relance, j'ai peut-être pas mis la bonne question. Donc forcément, ça sert et on s'enrichit comme ça. Bon, après, la partie la moins marrante, parce que voilà, un entretien dure à peu près 30 à 45 minutes et il faut compter une heure de retranscription pour 10 minutes d'entretien. Donc si on fait le calcul, on va dire des entretiens d'une demi-heure, j'en fais 6, ça fait 180 minutes à retranscrire. Voilà, c'est très très long, c'est la partie peut-être la moins intéressante, mais je trouve quand même qu'elle est nécessaire pour ensuite faire un très bon traitement de données derrière. Voilà, ça conditionne le reste. Parce qu'ensuite, après la retranscription, il y a 6 étapes de traitement de données, que je ne vais pas décrire ici, auxquelles j'ai soumis un article récemment par rapport à la description de mon protocole méthodologique pour le soumettre à différents universitaires, pour savoir ce qu'ils en pensent, parce que c'est la première fois qu'il est mis en œuvre. Donc je suis en attente de protocole, mais d'après les premiers retours, c'est intéressant. Mais c'est pour dire que c'est très, très, très lourd. Entre guillemets, entre les matchs, j'ai 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, bah, je retranscris, je traite mes données. Je n'ai pas le temps de faire autre chose. Donc voilà, c'est assez long.
Et ce recueil de données, est-ce qu'il est possible de le consulter sur Internet ?
Oui, il sera normalement mis sur Internet au mois de décembre sur le site du GREX, G-R-E-X, donc le groupe explicité, entre guillemets, développé par Pierre Vermersch. Voilà, donc l'article sera en ligne. L'originalité de ce protocole méthodologique, c'est d'articuler les différents vécus des joueurs. Il a souvent été utilisé au niveau de l'activité individuelle, mais pas au niveau de l'activité collective. Donc voilà, c'est d'articuler les verbatim recueillis par les joueurs, et comme ça, on peut reconstruire l'activité collective en train de se faire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, de savoir justement... c'est pas le résultat en soi qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ça. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir accès au point de vue de chaque joueur et ensuite de reconstruire l'activité collective a posteriori.
Et tout de suite, une petite pause musicale. On écoute Alam avec le titre Trust Them.
I quit.
De retour dans le Labomatique, toujours avec Vincent Gesbert, nous lui avons demandé quels étaient les objectifs de ses recherches sur l'activité collective au football.
Comme il faut vulgariser, je veux dire en trois grands thèmes. Bah, le premier, parce qu'on va mettre dans l'ordre temporel, au niveau méthodologique, bah, c'était de développer une méthodologie qui permette de comprendre l'activité collective en train de se faire. Donc pour ce faire, l'adoption d'entretiens d'explicitation. Ensuite, c'est bien beau, on a des verbalisations, mais comment on les traite ? Donc il faut synthétiser, il faut mettre en place un traitement de données qui soit assez efficace pour comprendre justement comment ça se passe. Donc voilà le titre de l'article, entre guillemets, où j'essaye de développer un nouvel objet d'étude, un nouvel objet théorique. Donc là, on va voir si déjà c'est intéressant, première chose. Et puis deuxième chose, comment les universitaires et les membres du GREX l'approuvent. Et si on peut, bah, le développer, donc essayer de le publier. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est au niveau méthodologique. Ensuite, au niveau pratique, moi, de mon point de vue, trop souvent dans les thèses, on essaye de comprendre ce qui se passe, on analyse, on le fait très bien. Et derrière, alors, des fois, il n'y a même pas de perspective d'entraînement, et des fois, il y en a, mais on n'évalue pas. Et moi, l'objectif de ce travail, justement, c'est de proposer des pistes d'entraînement visant l'amélioration de la formation des joueurs sur ces moments particuliers et de pouvoir les évaluer au cours du temps. Justement, c'est ce qui explique aussi la longueur de ce recueil de données, qui est assez long, mais c'est volontaire. Puisque normalement, sur la deuxième partie de saison, on va commencer à mettre en place et à évaluer ces dispositifs d'entraînement. Au sein même des situations d'entraînement, mais au sein des rencontres. Puisque certaines situations vont se répéter, et forcément, on va voir si c'est compris ou pas par les joueurs. Donc ça, c'est le versant pratique. Et ensuite, il y a le versant théorique. Je m'inscris dans une ligne de recherche, donc le courant qui est venu des États-Unis de la team Cognition, donc, dont le collègue de Nantes, donc Jérôme Bourbousson, qui a fait sa thèse en basketball, a très bien utilisé. Et a très bien développé avec ses travaux en basket et en foot. Donc moi, j'espère m'insérer là-dedans et proposer aussi des résultats intéressants. C'est assez différent de ce qu'a fait Jérôme, parce que Jérôme a utilisé un match entier de basket. Moi, je vais utiliser 15 matchs, mais des situations extraites de chaque match. Voilà. Et voir sur la longueur s'il y a des éléments récurrents ou non. Comme je disais tout à l'heure, l'idée générale, c'est est-ce qu'on a besoin de partager les mêmes préoccupations pour fonctionner collectivement ? Est-ce qu'on a besoin de se prendre en compte au cours de l'action ? Qui fait attention à qui ? Et forcément, avec ces réponses-là, on pourra proposer et adapter des contenus d'entraînement spécialisés aux problèmes posés aux joueurs.
Et vos travaux de recherche intéressent qui en dehors des entraîneurs de football ?
Déjà, les entraîneurs au foot, oui et non, parce que c'est un projet assez, assez élaboré. On s'intéresse vraiment à quelque chose de très fin, qui souvent n'est pas questionné. C'est comme ça, voilà, l'activité collective, c'est comme ça. Chaque joueur fonctionne comme il veut, et puis voilà. Donc là, vraiment, s'intéresser à cet objet d'étude, bah, c'est quelque chose de particulier, donc... Chez l'entraîneur avec qui je travaille, oui, tout de suite, ça a donné du sens. Mais chez d'autres, pas encore. Bah, c'est pas question de les juger. Je veux dire, il y en a qui, c'est leur préoccupation, d'autres non. Donc, chez les entraîneurs de football, je sais pas. Moi, je dirais que ceux avec qui j'ai discuté assez longuement, ils ont tout de suite trouvé un intérêt. Ceux avec qui je n'ai pas eu l'occasion de discuter assez longuement, foncièrement, sont sur peut-être des a priori et ont plus de craintes. Bah, je les comprends aussi. Et en termes d'autres personnes, bah oui, j'essaie vraiment ce travail. En fait, j'essaie de le présenter à certains ergonomes. Parce que je pense qu'il y a des situations qui sont parallèles au niveau du travail. L'originalité aussi du protocole méthodologique pour comprendre. Je veux dire, il y a des situations aussi, j'ai parlé des pompiers aussi, les pompiers qui interviennent sur des situations aussi à risque et qui doivent interagir très rapidement entre eux sans communication des fois. Donc il faut se comprendre sans se parler, première chose. Les situations dans les aéroports, les contrôles aériens, le contrôle dans les stations de métro. Bref, il y a toutes des situations de travail en fait, qui fait que il y a des rapprochements à faire entre les travaux des sciences du sport et les travaux dans le monde du travail. Donc l'enrichissement mutuel entre ces deux sciences, je pense, peut être très intéressant. Donc ça va nécessiter aussi de faire des communications orales dans d'autres milieux, voilà, et proposer ce qu'on fait et voir quel impact ça peut avoir. Mais en sachant qu'il y a déjà des travaux qui ont déjà commencé ces rapprochements et qui ont montré l'intérêt d'aller étudier des situations sportives pour ensuite mieux comprendre le comportement des humains dans d'autres types de situations de travail.
Et alors, est-ce que tout ce que vous faites là sur le foot peut éventuellement s'adapter à d'autres sports d'équipe ou pas ?
Je pense qu'il y a des lignes qui sont transversales, bien entendu. Déjà, je prends mon exemple, les résultats de Jérôme au basket, certains résultats m'intéressent et je trouve qu'ils sont concordants à ce que moi, je retrouve dans le foot. Il y a aussi eu des travaux dans les tennis de table, où l'activité surtout d'influencer l'adversaire, le leurrer, mais tout en se faisant comprendre par son partenaire, parce que c'est bien beau de leurrer l'adversaire, si on ne se fait pas comprendre par son partenaire, forcément, il y a des risques. Donc là, il y a des activités communes au sport, et c'est assez logique. Après, il y a des activités spécifiques, dans le sens où le basket, c'est un 5 contre 5 dans un terrain limité, le foot, c'est 11 contre 11 sur un terrain qui doit faire le double, voire le triple en termes de dimension. Tennis de table, c'est encore différent. Donc forcément, il y a des spécificités, mais il y a aussi des points communs. Après, le point, je trouve, qui est aussi intéressant à approfondir, c'est par exemple la situation, la thèse de Cyril Bossard, à Brest, qui a travaillé sur le foot aussi. Même lui, qui a travaillé sur une situation qui est assez proche de la mienne, situation de contre-attaque, de 3 contre 3, comme il a utilisé des situations d'entraînement, bah, sur les premiers retours que j'ai, moi, de mes entretiens, on a des résultats qui ne sont pas du tout similaires. Donc ça veut bien dire que l'impact de la compétition a un impact sur ce qu'on recueille. Donc c'est peut-être complexe d'aller étudier l'activité sur le terrain. Comme disait un praticien réflexif qui s'appelle Schoon, on va vers les terres marécageuses de la recherche, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, mais c'est le risque. Et en retour, on a forcément des données qui sont très significatives, très intéressantes, et qui sont maintenant devenues très très demandées au sein des recherches et des articles scientifiques. Parce qu'on en manque cruellement de données empiriques sur l'activité collective.
Est-ce que vous, Vincent Gisbert, vous pratiquez le football ?
J'ai essayé de pratiquer ce sport pendant une quinzaine d'années. J'ai dû arrêter cette année parce que c'est pas cumulable avec la thèse, le travail que je fais à côté. Donc ouais, j'ai plus le temps de jouer cette année. Je vais reprendre, hein, j'espère, si ma condition physique me le permet.
Et alors, est-ce que les recherches que vous avez faites du coup en master, oui, vous ont servi lorsque vous jouiez sur le terrain à l'époque ?
Moi, je dirais que c'est l'inverse. C'est que c'est mes situations, moi en tant que sportif, qui m'ont servi à élaborer mes questions de recherche en M1, en M2 et en thèse. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le rapprochement aussi avec l'entraîneur avec lequel je travaille actuellement, c'est qu'on a eu des pros. Alors lui, c'est un ancien professionnel, donc c'est peut-être pas le même niveau, mais c'est pour montrer que l'activité humaine, c'est la même. Parce que même au niveau professionnel ou au niveau régional, on a eu des préoccupations différentes. L'exemple typique, c'est j'ai un problème qui m'est posé au cours de la rencontre, à différents postes, et ce que dit mon coach, en fait, n'a pas d'impact sur moi, quoi. J'ai l'impression qu'il me dit quelque chose qui est complètement à côté de mes préoccupations. Parce que moi, le problème qui m'est posé, par exemple, ça va être le tel déplacement d'un adversaire, et lui va me parler d'un truc qui n'a strictement rien à voir. J'ai pas d'exemple en tête, mais moi, ça m'est arrivé souvent, et je me suis dit, comment peut-on se priver du point de vue du joueur, de sa perspective ? Il a peut-être pas raison, mais au moins, ça peut permettre d'évoluer, d'adapter son discours, et surtout, les consignes. Je crois qu'il n'y a rien de pire sur un terrain pour un joueur d'avoir une consigne d'un entraîneur. Déjà de savoir qu'on a un problème qui nous est posé et d'avoir une réponse en fait apportée par l'entraîneur qui n'a rien à voir du tout avec le problème qui nous est posé. On a l'impression vraiment d'être complètement incompris. Et c'est très très frustrant. Donc je me suis toujours demandé comment on peut améliorer ça. Alors après c'est complexe parce qu'on est dans un milieu sportif où souvent l'idée c'est le coach c'est tout, le joueur doit exécuter. Et si le coach demande au joueur, c'est comme un sentiment, un complexe d'infériorité entre guillemets. C'est de se dire, ouais, l'entraîneur a des manques, il ne comprend pas ce que veut faire le joueur, donc il est peut-être en difficulté aussi. Et en fait, je trouve plutôt que c'est une ouverture d'esprit. L'entraîneur a les compétences, mais il n'a pas tout le monopole du savoir. Et forcément, avoir accès à ce que pense le joueur, c'est hyper intéressant pour lui. Et en retour, il en gagne.
Et quand vous regardez des matchs de foot à la télé, est-ce que vous arrivez à les regarder sans penser à toutes les situations de contre-attaque que vous étudiez au cours de votre thèse ?
Non, je regarde toujours un match en diagonale avec mon objet d'étude derrière. À la fois déjà pour comprendre ce qui se passe, toujours d'un point de vue extrinsèque, hein. Je n'ai pas l'honneur d'aller interviewer des joueurs professionnels, même si je pense que ça serait intéressant. Le dernier match, Lyon-Real de Madrid, on a vu une équipe du Real qui était pour moi l'une des meilleures équipes au monde, je pense, sur les situations de transition offensive, les situations de contre-attaque. Et c'est intéressant de voir déjà qu'est-ce qui se passe au niveau comportemental. Ça peut donner des idées sur les propositions de dispositifs d'entraînement, par exemple. Puis il y a aussi d'autres problèmes qui interagissent. Et souvent, c'est très intelligible à partir du point de vue des commentateurs qui parlent souvent d'incompréhension, ils partent dans le zig alors qu'ils donnent dans le zag. Et des situations comme ça, justement, on se dit, voilà, ça montre l'intérêt de la recherche de l'activité collective parce que c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Et s'y intéresser, forcément, on va mettre à jour des processus qui sont pour l'instant pas connus et qui mériteraient d'être connus.
Le football, on le sait tous, est un sport très médiatisé en France. À côté, est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce sport ou pas ?
Je pense que je ne peux pas juger de savoir le nombre de la recherche, parce que moi je suis dans un objet d'étude, c'est vrai, qui est assez récent. Donc je sais par exemple ce qui est fait en basket, en tennis de table, en rugby et en foot sur mon domaine. Sur d'autres domaines, c'est plus complexe, même si j'ai quelques idées. En termes de physiologie, par exemple, d'exercice, le football quand même génère pas mal d'études scientifiques. D'ailleurs, il y en a au laboratoire. J'ai un collègue doctorant qui travaille actuellement sur le monitoring, c'est-à-dire la surveillance de la charge d'entraînement auprès des joueurs professionnels pour contrôler leur charge et éventuellement anticiper des blessures. Donc ça, c'est un travail pratique. Je sais qu'à Lille, par exemple, ils ont une cellule de recherche aussi développée au niveau physio. Par contre, au niveau psycho, développement, on va dire conception de situations d'entraînement spécifiques, collaboration avec le staff, c'est ça qui est vraiment complexe, parce que autant un préparateur physique peut travailler en marge du staff, entre guillemets, autant nous, on est proche du staff parce qu'on est proche des joueurs. Et c'est souvent ce qui fait peur. Parce qu'on est tellement proche des joueurs qu'il y a des gens qui pensent qu'on va prendre la place de l'entraîneur. Certains nous cataloguent comme des préparateurs mentaux, des gourous. C'est pas ça. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler vraiment avec et c'est pour ça que c'est important de créer une relation de confiance avec l'entraîneur et avec les joueurs. Bref, on est vraiment à l'interface, je trouve. Je pense sérieusement qu'il y a plein de travaux à faire. Mais pour que ça se développe encore plus, il faudrait changer les mentalités. Ça, j'en suis moins persuadé. Après, au niveau de la fédération, est-ce qu'il y a une cellule de recherche ? J'en ai entendu parler. À savoir qu'est-ce qu'elle va développer, ça je peux pas vous le dire. Mais oui, d'autres sports comme le rugby ont déjà créé une cellule de recherche où justement il y a beaucoup de travaux au niveau psychologie, au niveau ergonomique. J'aimerais juste, au final, en profiter, puisque beaucoup de personnes ont du mal à se représenter ce que peut être le travail d'une thèse et l'investissement qu'on y met. Et j'aimerais juste parler au nom de mes amis que je ne vois pas très souvent depuis cette année. Que je les oublie pas et que voilà, j'espère qu'ils comprennent mon investissement en termes de temps. C'est pas une raison pour que je les oublie. Je pense toujours à eux.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Campus Rennes. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique.